Bon, ça fait un an qu'on est en pandémie. On constate à quel point ça fait des ravages partout dans la société. Notamment, il y a l'économie, oui, il y a les enfants, il y a le spa, il y a l'école, mais il y a aussi des surdoses aux opioïdes qui ont plus que doublé à Montréal l'an dernier et ça aurait un rapport avec la pandémie. On est rendu seulement au 1er mars et il semble que la tendance ne va pas en diminuer. On en parle immédiatement avec Dr Marie-Ève Morin, médecin de famille qui œuvre en dépendance et en santé mentale à la clinique La Licorne de Montréal. Dr Morin, bonsoir.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
D'abord, parlons du terme opioïde. Rappelez-nous, c'est quoi un opioïde?
Oui, les opioïdes, en fait, ce sont des médicaments ou de l'héroïne ou de l'opium, mais en gros, les opioïdes, c'est des médicaments qui soulagent la douleur.
Okay.
Donc, c'est des antidouleurs dont on a toujours eu besoin en médecine et dont on aura toujours besoin. Hein. On ne peut pas soulager les douleurs de cancer avec du Tylenol. Donc, on a besoin des opioïdes en médecine. Cependant, c'est aussi dans la même famille que se retrouvent l'opium, la morphine, la codéine et l'héroïne. Et le fameux fentanyl aussi. Donc, les opioïdes, c'est un peu ça. Ce sont des dépresseurs du système nerveux central. Donc, si quelqu'un en prend en surdose, ben tout simplement, on a l'impression qu'il tombe endormi, mais la personne arrête ultimement de respirer. C'est ça, une surdose d'opioïdes. Donc, c'est ce qu'on craint le plus des opioïdes. C'est aussi très addictif. Ça donne une dépendance qui est physique. Donc, les gens qui sont opiomanes sont obligés de consommer, sinon ils tombent malades.
OK. Moi, il y a quelqu'un là, qui travaille en périphérie du système de santé qui m'a expliqué que une des raisons pour lesquelles ça augmente, c'est que les gens qui ont cette dépendance-là, là, qui sont malades, généralement vont consommer en petits groupes. Là, sont poussés à consommer seuls, donc il n'y a personne pour les réveiller ou sonner l'alarme. Est-ce que ça, c'est juste?
Ça, c'est un des facteurs qui est venu avec le confinement, justement, le fait que une des premières choses qu'on dit en réduction des méfaits par rapport à la consommation de drogue, que ce soit des opioïdes ou de la cocaïne ou d'autres substances, on recommande toujours aux gens de ne jamais consommer seul. Même si tout le monde est intoxiqué, s'il y a quelqu'un qui arrête de respirer habituellement, il y a quelqu'un qui réagit. Et un des bénéfices, si je peux dire, qu'on a avec les opioïdes, c'est qu'il existe un antidote, la naloxone. Donc, la naloxone, c'est un médicament que si on administre ça dans les minutes qui suivent une surdose, on peut sauver des vies avec ça. Il y a beaucoup de surdoses qui ont été sauvées avec ça, d'ailleurs.
Mais évidemment, si la pandémie me pousse à consommer seul, ben il y a personne qui va me voir m'endormir
Exactement.
Et oublier
Exactement.
De respirer.
Okay. Exactement. Mais ça, c'est seulement un des facteurs, parce qu'il y en a quand même d'autres là qu'il faut prendre en note. Par exemple, le fameux effet psychologique du confinement, de l'isolement. Il y a beaucoup de gens qui sont restés indifférents à la pandémie quand ça a commencé au mois de mars dernier, le confinement. Tout le monde a réagi. Tout le monde réagit de façon différente, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont restés complètement indifférents. Donc, les gens vont développer de l'anxiété, de la dépression, peut-être parfois même des symptômes de choc post-traumatique lors d'une pandémie. Et c'est pas tout le monde qui gère ça de la même façon, hein, l'anxiété puis la dépression. Et en pandémie, d'autant plus que les gens avaient peur de consulter à l'hôpital, avaient peur peut-être d'aller à l'urgence pour de l'anxiété, par exemple, parce qu'ils avaient peur du COVID, ben il y a beaucoup de gens qui se sont auto-médicamentés. Et là, ben on prend ce qui nous tombe sous la main. Hein. Ça peut être l'alcool, ça peut être les opioïdes, ça peut être le speed, ça peut être le cannabis. Mais les gens se sont soulagés avec ce qu'ils pouvaient, comme on peut dire.
Dans les overdoses, Dr Morin, là, dans les surdoses, c'est quoi la proportion de surdoses qui touchent les gens là, qui sont malades, qui doivent consommer, et la proportion de gens qui se sont cassés un membre, qui ont une maladie chronique et qui prennent un médicament et qui font une overdose?
Il y a énormément de chevauchements entre les deux. D'ailleurs, d'abord, je dois vous dire, là, il y a beaucoup de gens qui prennent des opioïdes pour des douleurs chroniques, qui deviennent dépendants, puis qui ensuite perdent le contrôle sur leur consommation d'opioïdes, même si c'est prescrit. Ça, on en voit beaucoup. Et il y a des gens, comme vous le savez, qui consomment des opioïdes de façon illicite, comme l'héroïne. C'est très difficile de répondre à cette question-là. Honnêtement, j'ai pas la réponse à cette question-là.
Je comprends.
Mais d'après moi, ça doit être, si on pense aux gens qui consomment, là, de façon toxicomane, là, la toxicomanie, j'imagine que c'est au moins 60 à 70 %. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup de chevauchements. Il y a 50 % des toxicomanes ont des douleurs chroniques. Donc, ça fait dire qu'il y a beaucoup de gens qui consomment de façon illicite, qui consomment aussi pour des douleurs, qui consomment aussi pour se traiter, puis qui peuvent faire des surdoses quand même. Donc, c'est une question.
Et ça, c'est quand c'est pas des blessures psychologiques aussi.
Ah, tout à fait. Je veux dire, les opioïdes, je ne sais pas si vous en avez déjà reçu lors d'une chirurgie ou tout ça, mais c'est pas désagréable. Hein? Si c'était désagréable, il n'y a pas autant de gens qui accrocheraient. Donc, la narcose, là, l'état qui est induit par les opioïdes, c'est un peu comme quand vous êtes sur le point de vous endormir. Donc, vous êtes un peu engourdi, vous avez pas mal physiquement ni mentalement, le temps n'existe plus, donc vous êtes dans une bulle et vous êtes bien. C'est un peu l'effet que ça peut reproduire les opioïdes au début. Bon, c'est sûr que ça peut rendre malade aussi. Là, il y en a qui vont vomir et tout ça. Mais l'état de narcose, si c'était désagréable, il n'y aurait pas autant de gens qui seraient accros.
Très bien. Écoutez, Dr. Marie-Ève Morin, je vous amène sur un autre terrain. Vous êtes médecin de famille, bon, spécialisé dans les dépendances, mais vous voyez les gens, là, vos patients viennent vous consulter. Qu'est-ce qui vous surprend depuis un an, depuis la pandémie? Qu'est-ce qui a changé?
Ben, ce qui me surprend beaucoup, c'est le nombre de personnes qui ne consommaient plus, qui se sont remis à consommer. Les fumeurs, hein, j'ai vu tellement de gens se mettre à recommencer à fumer la cigarette. Ça a l'air banal, là, mais la cigarette, ça calme, hein, quand même. Les gens vont moduler leur anxiété avec ça. Donc, beaucoup de gens qui ont recommencé à fumer. Je vois beaucoup, beaucoup de gens en épuisement aussi professionnel. Pas nécessairement des gens qui consomment, mais je peux vous dire que les gens, c'est sûr que la population est touchée, puis c'est pas juste moi qui travaille en dépendance. Tous les médecins de famille pourraient vous dire la même chose de ce temps-là. C'est difficile. On n'a jamais prescrit autant d'antidépresseurs. On n'a jamais vu autant de gens en détresse. Moi, j'en ai jamais vu autant en rechute aussi, là. Fait que c'est vraiment pas évident. Puis je trouve que ce qui m'étonne, en fait, ça va peut-être vous surprendre, c'est la résilience. Parce que malgré toute la souffrance qu'on voit en ce moment, là, tout le monde continue d'avancer vers l'avant, pareil. Là. Tout le monde continue d'avancer. Oui, il y a plus de suicides, peut-être un peu. Il y a beaucoup plus de dépression. Moi, en tout cas, dans ma clientèle, j'en vois plus, mais je suis quand même étonnée de la résilience.
Je vous arrête une seconde, puis faites bien de souligner la résilience, mais sur les suicides au coroner, on dit qu'il n'y en a pas plus de suicides comptabilisés.
Peut-être qu'il y a plus de surdoses. En fait, peut-être qu'il y a des suicides par surdose qu'on comptabilise pas comme des suicides. Mais moi, dans ma pratique, puis même dans mon environnement, parce que je travaille dans les festivals de musique électronique et tout ça, dans le milieu... moi, cette année, j'ai quand même perdu quelques patients par suicide. De là à dire qu'il y en a vraiment plus, ça reste à déterminer. Mais comme je vous dis, il y a des surdoses, des fois, qui sont des suicides, qui passent pour des surdoses, et l'inverse aussi. Et l'inverse.
Mais c'est fascinant quand vous parlez de, justement, là, les gens rechutent. Par exemple, les fumeurs, vous voyez, ça, c'est un angle mort, je n'avais pas vu ça. Consommer plus d'alcool, ça, je n'entends parler, mais des gens qui recommencent à fumer, bien, c'est sûr que ça va être un effet indésirable de la pandémie.
Tout à fait. Puis l'alcool, là, je veux dire, comme on l'a vu au début de la pandémie, les gens se faisaient des réserves, hein, des réserves et des réserves. Ils remplissaient des paniers d'épicerie d'alcool par peur d'en manquer. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que l'alcool, c'est comme le chocolat. Plus t'en as, plus t'en manges. Puis je veux dire, de se faire des réserves comme ça, je pense que ça porte juste les gens à compulser davantage et non à l'étirer sur longtemps. Il y en a qui sont capables, là. Ils ont des caves à vin, puis c'est correct, là. Mais les gens, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à boire, par exemple, à prendre l'apéro à partir de 11h en télétravail, puis à l'heure du souper, ils ont déjà une bouteille de but. Puis ça, c'est des choses qu'on voit aussi, là. Il y a des nouvelles dépendances aussi.
C'est fascinant. Merci de nous en avoir parlé.
Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.